With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pas si vous avez vu Don't Look Up le
film.
Exactement ça. On voit comme un truc comme ça qui explose et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc là, on commence tous à crier. Les gars locaux, les Finlandais, qui hallucinent aussi. Donc on se dit ok, c'est un truc complètement pas normal.
Pas normal, ouais. Ouais.
What the fuck, that? Ouais, ça se désintègre. Ça désintègre, frère. Oh, oh, l'explosion.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Si on pouvait échanger sa vie contre celle de quelqu'un d'autre, certains choisiraient sûrement Thomas Pesquet ou d'autres Angela Merkel, et bien moi, ce serait Derek Barbola. Notre invité du jour est le fondateur de Cercle. Avec son équipe, ils organisent des lives musicaux avec des artistes prestigieux dans les lieux les plus extraordinaires de la planète. Chaque live aux quatre coins du monde est une performance et un pur bonheur pour les yeux et les oreilles. Mais avant que Derek nous raconte ses aventures et qu'il nous explique ce qui s'est passé entre ses premiers lives dans son appart et celui au pied de la pyramide de Gizeh, c'est des pyramides de Gizeh d'ailleurs, non? Ouais, bah voilà, bah c'est pas grave, l'intro je la continue. Bonjour Marie et bonne année.
Bonjour, bonne année. Comment ça va?
Bah ça va très bien, un petit peu long cette intro, mais je suis allé au bout, je suis content.
Ouais, bravo.
Ça s'est bien passé les fêtes?
Ça va, j'ai pas bougé beaucoup, je suis resté en région parisienne, mais ça s'est bien passé, oui.
Bon, bah très très bien, petit café, tout ce qu'il faut, et eh bien bonjour Derek, hein.
Bonjour Maxime, bonjour Marie.
Bonjour.
Je suis très très content de t'accueillir Derek, j'ai un peu spoilé ce que je pensais de toi, donc voilà, je suis très content de te recevoir, j'espère.
Moi aussi je suis très content d'être là.
Est-ce que tu vas nous faire voyager, t'es prêt à nous faire voyager?
Je suis prêt.
Bon, tu connais un peu le podcast, donc voilà, c'est pas une surprise, je vais te demander de te présenter en anglais s'il te plaît, pour faire comme si on était en auberge de jeunesse, que tu rencontrais des étrangers, tout ça. Comment tu te présentes? Je pense que ça, ton niveau d'anglais il doit être pas mal.
Franchement, non, il est pas incroyable, mais enfin bon, j'ai un bon petit accent et d'ailleurs, je reçois souvent des moqueries sur YouTube. Mais c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai toujours du mal à faire me présenter, donc c'est drôle que tu aies cet exercice-là pour moi. Donc je dirais Hello, I'm the founder of Cercle. I founded this special project 5 years ago and we organize live concerts around the world in unique locations that we film and live stream on our social networks.
Yeah. Oh, c'est parfait, moi j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. oui, donc l'anglais, c'était pas la base un truc de ouf chez toi.
Non,
non.
Je parle couramment espagnol et français parce que ma maman est argentine, mais anglais, j'ai eu un peu de mal à vraiment m'y mettre. Je parle mieux qu'il y a 5 ans parce que maintenant je fais toutes les interviews des artistes en anglais, mais ouais, c'est parfois pas encore ça.
Du coup, c'était plus sympa quand t'étais dans ton appartement, quand
Exactement.
Tu faisais les premiers lives, c'était plus moins stressant.
Exactement.
je comprends. Bah écoute, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au voyage pour commencer en quelques mots?
Mon rapport au voyage, en fait, déjà, je dirais qu'il a énormément évolué depuis que je suis petit, mais il a toujours été très fort. J'ai des parents qui adorent voyager, qui m'ont transmis, entre guillemets, le virus depuis que je suis tout petit. Mes parents et mes grands-parents sont français, italiens, argentins, arméniens, espagnols. Du coup, j'ai un peu toujours eu ce rapport-là. Et quand j'avais 16 ans, déjà, je voyageais tout seul. Je sais pas comment, mais mes parents me laissaient voyager tout seul. Style, j'allais en Grèce pendant 2 jours, ce genre de trucs.
C'est trop bien.
Je partais pas super longtemps, mais j'adorais. Enfin, j'ai toujours adoré voyager. J'ai fait ce qu'on appelle un tour du monde, même si c'est un grand mot, quand j'avais une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai créé un projet qui m'a permis de voyager gratuitement, qui est Cercle. Non, mais je rigole, mais au final, c'est Cercle, c'est clairement aussi le voyage, c'est le cinéma, c'est mais c'est aussi le voyage et la musique.
C'était une passion déjà avant, quoi. Ouais. Ma question, c'était est-ce que tu voyageais déjà avant Cercle ? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui était ancré en toi avant.
Bah, t'imagines tout seul à 16 ans ?
Oui, c'est pour ça. Je découvre, c'est trop bien.
C'est trop bien.
Ouais, et t'as beaucoup de légitimité, du coup, dans ton projet. Je suis très content.
Mais par contre, ça a vachement changé, ce rapport-là. En fait, au début, je voyageais de manière, pour découvrir, pour découvrir de nouveaux horizons. Et après, avec Cercle, ça a été un rapport totalement différent parce qu'on voyage très rapidement. Enfin, on part 3-4 jours, même à l'autre bout du monde. Du coup, en fait, les frontières, les distances s'effacent un peu. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte, je me rends pas vraiment compte de à quel point on peut aller très loin ou très rapidement. Et du coup, j'ai plus trop de notions parfois de la distance et du temps.
Tu sais que t'es sur la planète Terre et c'est tout.
Oui, voilà. Mais ça va hyper vite et du coup.
Il n'y a plus de frontières.
Oui, voilà, il n'y a plus de frontières.
C'est un citoyen du monde, en fait.
Non, mais en fait, c'est bizarre dit comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je profite pas autant. Enfin, c'est complètement différent un voyage, je sais pas, de voilà, un vrai voyage que partir trois.
On va en discuter longuement après. J'ai très hâte. Mais avant cela, Marie a préparé son fameux quiz que tout le monde attend. Tout le monde attend. Il y a des commentaires dans tous les sens sur tes quiz. Mes amis ne me parlent même plus de mes performances. Ils disent putain, le quiz de Marie. Le dernier, le thème, c'était « On n'apprend rien ». Et un de mes meilleurs potes m'a dit « Putain, il était trop bien le dernier quiz de Marie, on n'a rien appris ». Et il était vraiment sincère. Donc allons-y,
bah,
Marie.
Là, le quiz, tu ne vas pas être déçu. Hein. Tu ne vas pas être déçu parce que je cherche un thème. Parce que j'essaie de faire un thème à chaque fois en fonction de notre invité. Et donc, le projet Cercle, mon thème, c'est donc les cercles et les ronds.
Voilà, bah, très bien.
Ce qui est paraît absurde, mais vous allez comprendre.
Copain Romain va être ravi, je le sais.
Le London Eye, c'est la grande roue de Londres, oui. En fait, vous voyez. Donc voilà, c'est rond, c'est juste ça le...
Oui, là, c'est ça ton axe, très bien, trop bien, j'adore.
Et doté de 32 capsules dans lesquelles il y a des gens. Pourtant, elles sont numérotées de 1 à 33. Pourquoi, à votre avis ?
Ah, il n'y a pas le 13.
Oh, très bien joué, c'est exactement ça. Ah ouais, c'était évident.
Non, mais je crois qu'il y a ça, tu sais, dans les ascenseurs ou dans les avions également.
Ouais, dans les ascenseurs, ouais. Les gens qui habitent au 13e.
Ah oui, c'est vrai que c'est un peu con. Non, mais je crois qu'il y a ça dans les avions, c'est ça.
Pour certaines compagnies superstitieuses, ouais.
Eh ben voilà, ouais, pour des questions de superstition, il n'y a pas le 13. Bon.
Mais peut-être qu'il n'y a pas dans les ascenseurs non plus, j'en sais rien, mais bon, peut-être je dis de la merde, mais en tout cas, on a appris un truc.
C'est dingue, ça.
C'est fou, le London Eye. Vous savez, on parle de voyage, mais on aime aussi les voyages en France. Et on dit de la France qu'elle est championne du monde des ronds-points. À votre avis, combien de ronds-points y a-t-il dans notre pays ?
Ça, c'est une question pour Derek.
Merci, Maxime. Franchement, je dirais 3000.
3000.
Ah, je dirais 8000, moi.
Eh bah, vous êtes tous les deux à côté de la plaque. Il y a 30 000 ronds-points.
Ah ouais, d'accord.
Et à titre de comparaison, il y en a seulement 10 000 en Angleterre. Et en France, il y a à peu près entre 300 et 500 ronds-points qui sont construits chaque année. Vraiment, on kiffe les ronds-points.
Ouais, incroyable.
C'est dingue, ça.
Quatrième question. En Allemagne, un pot nommé Rakotsbrusk, ou plus simplement le pont du diable, a une particularité en lien avec le thème de ce quiz. Quelle est-elle ?
Je le connais, il est incroyable ce pont. Et en fait, avec le reflet, ça fait un rond parfait, non ?
Exactement.
Le reflet qu'il a...
Oh là là.
C'est un pont en demi-cercle et du coup, avec le reflet, ça fait un cercle parfait.
Vous avez fait un live là-bas ?
Bah, en fait, depuis le début de cercle, je rêve de faire un live là-bas.
Ah, c'est ouf ! Parce que j'ai vraiment juste tapé rond voyage. Destination.
Voilà. Parce que peut-être tu fais pareil pour rechercher ces lieux.
Oui.
Bon, la dernière petite question. Du 2 juin 1999 au 27 octobre 2000, un explorateur, réalise un tour du monde par l'Équateur. Donc il a fait le tour du monde. Pardon, oui. Donc ça fait un cercle. En 17 mois, sans moyen de transport motorisé. Cette expédition a été nommée Latitude Zéro. Qui est l'homme qui a réalisé cette expédition ?
C'est pas Mike Horn ?
Exactement.
Oh,
facile.
Beau projet, hein ?
Beau projet. Et il a fait un cercle...
Parfait.
Voilà, un cercle parfait.
Non, mais... Parfois, moi, je cherche des concepts pour faire des vidéos de voyage. Bah là, celui-là était pas mal. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il a bien joué. Hein.
Mais c'était galère,
son
enfin.
Véhicule, je suppose 17 mois quand même, c'est un petit.
Ouais, mais tu sais, quand il passe par les pôles et tout, ça doit être plus galère que. Non, ça. Là et là,
oui,
il doit y avoir
vrai.
Quelques montagnes, des trucs.
Bah, t'as beaucoup d'eau, non ?
Oui, sur, bon, il avait un Wally, quoi.
Ouais, il avait, c'est ça. Ouais, moi, je l'aurais pas fait. Hein. Bon, en même temps, je suis pas Mike Horn. Et voilà, c'est la fin du quiz.
C'est excellent. Franchement, s'il y avait du public, là, il y aurait beaucoup de
bons replays. On sait que vous riez dans le métro.
Et pas, il y a pas que des Parisiens ou des métros d'art, les touristes aussi.
Vous riez dans votre voiture. Vous riez dans votre douche.
Voilà, très bien. Pas tout le monde se douche dans le touriste aussi.
Vous riez dans votre bain.
Bon, on va continuer. Eh bien, Derek, on commence par quoi? Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire déjà un petit récap de l'évolution de Cercle depuis sa naissance? Parce que ça a vraiment commencé tout minus et là maintenant. C'est incroyablement exceptionnel et enfin tout minus c'était bref. Bon, j'aurais pas dénigré.
Non, je pense que si, on peut dire que ça a commencé vraiment tout minus. Ça a commencé dans mon appart en fait, dans mon salon en 2016, en avril 2016. Et j'ai invité donc des potes DJ à jouer chez moi. J'ai mis une webcam, enfin à l'époque il y avait 2-3 webcams. Et tous les dimanches, j'invitais des potes différents à jouer, je les interviewais. D'ailleurs, l'interview, elle était avant. Et je balançais ça en live d'abord sur YouTube. Ça n'a pas du tout marché. Je crois que j'ai fait 6 ou 7 auditeurs par émission au début. Et en fait, au même moment, Facebook a lancé la fonctionnalité live. Et du coup, j'ai juste plugué mon système à Facebook. J'ai vraiment eu un clic à faire. Ça a cartonné ça a beaucoup mieux marché que sur YouTube parce que c'était poussé en avant par les algorithmes de Facebook, de notre ami Marc. Et ensuite, petit à petit, j'ai exporté le projet dans différents lieux. Donc d'abord sous une sandwicherie dans une cave, une belle cave voûtée à Paris.
Moins minuscule déjà, moins minuscule.
Déjà, un peu moins minuscule.
Plus d'espace.
Après, un bateau en croisière sur la Seine. Un peu moins minuscule. C'était pendant la fête de la musique. Et un jour, j'ai envoyé une demande sur le site internet de la Tour Eiffel, sur un formulaire de contact. Ça, là, personne ne la croit, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et ils m'ont répondu le lendemain, en me disant venez voir les différents lieux qu'on peut vous proposer, on fait un petit repérage et tout. Donc, le surlendemain, j'étais sur le toit du Jules Verne, le restaurant au deuxième étage. Il y a une petite plateforme qui n'est pas accessible au public, mais on peut mettre un artiste, pas de public, juste l'artiste. Et ils ont accepté qu'on tourne. Donc 3 semaines après, ça allait hyper vite. 3 semaines après, on tournait. Et là, on a fait notre première grosse émission qui a vraiment cartonné à l'époque. Et là, on ne s'est plus arrêté. En fait, pendant 2 ans, on a fait une émission par semaine. Tous les lundis.
Tous les lundis, ouais.
Tac, 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 tac. Une émission par semaine. Donc, on restait beaucoup en France. En fait, petit à petit, on essaie de trouver des lieux de plus en plus incroyables. Alors, forcément, quand tu pars de la Tour Eiffel, c'est un peu compliqué. Mais on s'est vraiment donné. Et ça a monté petit à petit le projet de plus en plus gros. Et à un moment, on s'est internationalisé. Et voilà comment ça a commencé.
Je suis venu plusieurs fois quand c'était en France. Pas encore à l'étranger. Je me souviens, la Tour Eiffel, je l'ai fait. Il y avait
Nina Kravitz.
Ouais. Donc, coucher de soleil. Donc, on est combien? Il y avait combien de personnes?
500 personnes.
Parce que parfois, il y avait du public à un moment. Après, ça a été plus compliqué à certains moments.
Non, 80% du temps, il y avait du public.
Toulouse aussi, moi, je suis venu pour... C'était de l'espace, c'était Étienne de Crécy. Donc, on mixait. Wow. Il y avait la station Mire derrière. Coucher de soleil, bam! Et là, il y a du...
Ah, j'aurais trop kiffé.
C'est incroyable. Et la fumée et tout.
Vraiment, la Tour Eiffel, j'ai pensé directement. C'est comme ça que PNL a eu l'idée de faire le clip.
Oui, c'est ça, peut-être qu'ils ont envoyé sur le formulaire PNL.
Non, j'avais les boules pour PNL parce que c'est le seul étage qu'on n'ait pas fait. En fait, on a déjà fait 4 collabs avec la Tour Eiffel, 3 avec Cercle et une avec Drop, qui était un autre petit projet, enfin, le même projet qu'on voulait faire, mais pour plutôt pour du rap. Et en gros, on avait fait le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. On n'a pas fait le troisième étage, c'est PNL qui l'a fait, malheureusement.
Je pense qu'il y a une histoire de. Ça doit être très cher à louer, hein. Non. Je pense que c'est un petit budget du côté de PNL.
Peut-être c'était un formulaire sur une page qu'on n'a pas trouvé sur le site.
Peut-être.
Franchement.
Bonjour, nous sommes à Demo et NOS.
Bon, alors là maintenant, on va partir un peu en voyage. Vous n'arrivez pas beaucoup de temps avant le live. Est-ce que tu peux me raconter un truc type, comment ça se passe?
En gros, on arrive la veille ou l'avant-veille, en général. Donc effectivement, c'est très peu de temps avant le live. Après, on est toujours aidé par des producteurs ou ce qu'on appelle les promoteurs locaux qui nous aident à tout organiser en amont. Et bien sûr, c'est extrêmement organisé en amont. On fait souvent aussi des repérages quelques mois avant, ou alors notre producteur local fait un repérage. Et du coup, on arrive la veille ou l'avant-veille, on fait toujours un petit repérage. On regarde s'il y a eu des choses qui ont été un peu mal, par exemple la position de la scène qui a été mal prévue, on repositionne tout ça. On installe selon la capacité, parce que ça va de 0 à 5000 personnes ou même plus. Selon la capacité, on installe la veille ou le jour même, le matin, toute l'installation, répétition, test internet, test de caméra, test de drone. Et ensuite, ça ouvre en général vers 15-16 heures. On a toujours un warm-up. Donc de 2 heures pour que le public ait le temps d'arriver, et ensuite il y a le set qui est en live. Donc là on se met en vrai live, hein, c'est du vrai direct, c'est important à dire. Même quand on est au milieu du désert de Sahel de Oyuni, c'est en vrai live. Et ensuite on fait un petit closing set et des installations le soir même, donc c'est souvent une journée de 24 heures souvent. Et du coup le lendemain, repos en général. Je dis en général parce que de temps en temps, par exemple, en Colombie, on a enchaîné avec un autre event et le surlendemain, encore un autre event. En général, c'est repos et le surlendemain, mercredi, on rentre à Paris. Et ça, c'est toutes les 2 semaines. Donc, c'est un rythme quand même assez soutenu puisque quand tu es à Paris, tu dois préparer celle d'après.
Alors, Marie, elle a les gros yeux, Marie.
Ouais, je suis fatiguée. Alors, si tu m'expliques, je suis crevée.
Ils ont quelques vidéos coulisses, tu vois, et il y en a une où ils sont t'as les pyramides de Gizeh et genre, ils doivent envoyer le live. Bah, raconte, hein, mais c'est genre le stress de ouf. Il y a plus. Ils lancent le live et là, ça capte pas.
Et là, pas internet. Mais en fait, il y a toujours, je sais pas pourquoi. Alors, je veux pas dire toujours parce que justement, en Colombie, c'est pas arrivé. Et on se disait, mais comment ça se fait qu'il y a aucun problème là depuis tout à l'heure? Il y a eu aucun problème en Colombie. Mais enfin, c'était très dur, mais il y a eu aucun problème technique. Mais ouais, à Gizeh, on est juste avant de lancer live, mais vraiment 2 minutes avant, alors que tout marchait parfaitement toute la journée. Je sais pas ce qui s'est passé. Internet marchait plus. Et là, c'est la panique parce que t'as toutes les équipes de l'artiste qui sont là, le manager, tu sais pas où te mettre, tu vois.
Est-ce que vous avez essayé de mettre la box dans le riz?
Pose ton CV, Marie, je pense que ça va marcher.
On a tous essayé, on a appuyé sur le bouton on-off, tu sais, la fameuse solution miracle.
15 secondes.
Voilà,
un chamallow, 2 chamallows, 3 chamallows.
Et non, et en fait, ça a marché un peu par miracle 10 minutes après, mais oui, c'est toujours un moment un peu stressant, surtout qu'il y a... Enfin, en fait, on se calque au coucher de soleil. Et le soleil n'attend pas. Donc, si on est trop en retard, ouais, on va être de nuit. Et si on est de nuit, on voit rien. Donc, disons qu'il y a un peu ce stress du temps aussi, tu vois. Donc, ouais, il y a toujours des... Mais sur le dernière minute et le fait d'arriver un petit peu avant, on s'améliore avec le temps. C'est vrai que, par exemple, le behind the scenes de Cappadocia, on peut voir qu'on est arrivé la veille et qu'on est arrivé, qu'on a commencé à installer. Ça, on le fait presque plus, parce que c'est un peu suicidaire. Et c'est même pas bon pour la santé, oui. Tout court. Mais donc, on essaie d'arriver quand même au moins 1 ou 2 jours avant. Mais jusqu'à maintenant, pour des raisons budgétaires, on est arrivé souvent vraiment au dernier moment.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Oui, parce que c'était une de mes questions. Du coup, est-ce que vous dormez dans l'avion? Est-ce que tu arrives à dormir? Tu arrives à te reposer?
Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à dormir dans l'avion.
Ah, il est dans ma team.
Voilà,
c'est la question que tous les touristos et touristas se posaient.
En plus, je suis grand, du coup, la place, là, le truc, ça rend fou.
En plus, j'ai vu, dans les extraits, ça part sur XL Airways parfois. Ce qui n'est pas hyper confort. Ce qui n'est pas hyper confort en termes de place.
Je connais pas.
XL Airways?
Ça a disparu. Ça a fait faillite.
Mais c'était une compagnie low cost, mais vraiment très très low cost, où ils supprimaient tout ce qu'ils pouvaient, je crois. Hein, genre, d'où les places pour les jambes, c'était même pas la peine d'y penser, quoi.
Ouais, c'était debout avec.
Oui, c'est ça, c'était presque dans la soute. Mais après, il y a des gens dans la team qui. Tu vois, toi, t'es la team. Maxime, t'es la team dodo direct ou...
Moi, ça va mieux. À un moment, c'était très galère, les avions. Maintenant, j'ai pris le transsibérien, donc franchement, plus rien ne m'impressionne en termes de distance, en termes de confort et tout.
C'est vrai.
Mais avant, il y avait petit somnifère, je crois, pour essayer de dormir.
Petit somnifère, ouais.
Petit vin rouge, petit somnif.
Moi aussi, à un moment, je prenais du 2-Normil.
Ah oui, bah voilà, on connaît.
Mais en fait, ça me cassait en 2 le lendemain. Du coup, mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens dans la team, ils se mettent juste comme ça avec les bras croisés et boum, ils dorment. Je comprends pas.
Je suis jaloux.
Ouais, je les déteste.
Mais je veux un super pouvoir, c'est ça. Je veux pas être invisible, je veux pouvoir dormir quand je veux, quoi.
Ah ouais, c'est vrai que c'est un vrai bon pouvoir. Hein.
Ah ouais. Alors j'ai vu que t'es venu avec une petite liste de lieux que tu as visités pour pas. Petit antisèche. Donc j'espère que tu as quelques trucs que tu pourrais nous partager, des lieux incroyables que tu as découverts grâce à Cercle qui. que tu pourrais nous faire un peu voyager avec le micro comme ça?
Le dernier, la Piedra del Peñol.
C'était incroyable. Je viens de voir le live, là, il est sur YouTube, allez le voir.
Donc, incroyable.
Parle-nous-en, s'il te plaît.
Ce lieu, c'est une pierre qui est au milieu de énormément de lacs. Donc, c'est près de Medellín, en Colombie. Et c'est un lieu vraiment incroyable. C'est un monolithe qui. Enfin, il faut monter 700 marches pour
y accéder. Combien de mètres?
Très bonne question, je ne sais plus.
Ah, putain. Parce que c'est haut. Enfin, non, c'est pas du tout. Non, c'est juste pour que les gens se rendent compte. Parce
700
que c'est...
marches, attends, je sais pas, ça chercher. Doit faire 200 ou 200.
C'est combien
300.
De temps de 700 marches
Là, je suis sur Wikipédia, c'est à 220 mètres de haut. Tout le reste, c'est hyper plat, il y a de l'eau et tout ça autour.
Ouais, enfin, en fait, la nature est magnifique. Il y a énormément de lacs tout autour. Il y a une nature hyper. Hyper présente. C'est un endroit... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai senti beaucoup de sérénité, en fait, là-bas. J'ai vraiment adoré.
Celui-là, tu l'as découvert comment, par exemple? Comment c'est passé?
Sur Internet.
Sur Internet?
Franchement, ouais, en tapant... Et après, lieu insolite 2022.
On devrait te filer les bouquins de Patrick Beau, hein.
Oui, c'est vrai. On a notre dernier invité. Il connaît tous les lieux insolites de la planète. Ouais. Il y aurait peut-être un featuring à faire.
Je prends un café avec lui.
En parlant de ça, moi, il y en a un que j'ai pas fait, de lieu un peu insolite, fou. Au Vietnam, ils ont créé une sorte de pont avec des mains incroyables qui sortent de la roche. Et tu l'as spoté celui-là déjà?
Ouais, je sais pas si j'ai trop le droit de le dire.
Ah, d'accord.
Un truc de prévu avant le Covid, mais malheureusement.
Ah, mince.
Je crois que c'est une des premières. C'est la première. Non, c'est la deuxième émission qu'on a dû annuler. Elle était prévue en mars 2020.
D'accord.
Donc très triste, mais on a dû la reporter. On sait même pas quand, parce que le Vietnam, la situation n'est pas forcément très bonne encore. Donc c'est magnifique cet endroit. Et j'ai fait un repérage là-bas, mais c'était complètement brouillard. Donc je sais pas si tu y es allé.
Non, pas encore, mais justement, je viendrai dans vos valises pour quand vous ferez. Je te montrerai les photos. C'est vraiment fou ce lieu. Ils ont créé ça un peu pour faire venir des touristes, je crois. Il y a une vue splendide sur. Les montagnes et tout. Oui. D'ailleurs, il y a une transition un peu avant et pendant le Covid. Parce qu'à un moment, c'était plus compliqué de tourner, de voyager, etc. Et vous avez quand même trouvé une solution. Bon, il n'y avait plus de public, mais comment ça s'est passé? Vous avez à un moment hésité à arrêter ou comment vous avez fait pour continuer
Ça a été un moment un peu difficile, comme tout le monde, bien sûr, pendant le premier confinement, où on s'est tous retrouvés... comme tout le monde confiné, et du coup avec beaucoup de temps pour réfléchir, mais la grande chance qu'on a eue, je dirais, par rapport à d'autres acteurs de l'événementiel, c'est de pouvoir faire des concerts sans public, ce qu'on faisait avant. Donc on avait l'habitude de le faire, on l'a déjà fait beaucoup de fois, enfin je veux dire, c'était... du coup, ça a tout de suite été une option, et on était... Enfin, on travaillait à fond sur ça pour le futur, et on avait prévu de faire notre première émission sans public sur l'Arc de Triomphe.
Je me souviens de ce moment.
Ce fameux moment.
Tu sais pas au courant, raconte, il est fou ce moment, je t'ai dégoûté.
Ouais, c'était censé être... En gros, c'était vraiment en plein confinement. On a contacté l'Arc de Triomphe. Ils ont été hyper sympas. L'administrateur de l'Arc de Triomphe nous a dit « Venez faire un... » En fait, on voulait faire un concert caritatif avec Bob Sinclair, le retransmettre comme d'habitude sur nos réseaux et faire une levée de... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, levée de fonds pour les hôpitaux de Paris et deux autres associations. Et donc, on lance l'event et ça... Vraiment, ça explose dans la presse.
Médiatiquement, ouais.
Médiatiquement, ça explose. Et à tel point que l'Élysée a eu peur, en fait, que ça ramène des gens.
Que les gens pensent que finalement que c'était en public concert. Et tout ça. Et que...
L'AFP a fait une dépêche en écrivant le mot concert. Et ça nous a, malheureusement, d'un côté, ça a fait beaucoup de pub, mais d'un autre côté, ça en a fait trop. Et en fait, on a vachement regretté de l'avoir annoncé. On s'est dit, on aurait dû le lancer comme ça, tu vois. Et ça aurait aussi cartonné, mais. Ouais, là, malheureusement,
on peut s'arrêter l'Arc de Triomphe sans personne.
Ouais, on pouvait venir avec des drones. Enfin, c'était vraiment l'occasion de rêve. Bob Sinclair, c'était le DJ du confinement. C'était vraiment la collaboration parfaite. Et malheureusement, à cause de ces peurs qu'il y a eu, que je peux comprendre aussi, même si je savais que personne allait se pointer, à l'époque, il y avait 135€ d'amende si tu venais, donc de toute façon, ils auraient sûrement aligné 2-3 personnes, ça aurait réglé le problème. Mais voilà, on n'a pas pu le faire, ça a été complètement annulé, et c'est même pas reprogrammé.
Ah ouais, c'est triste qu'on puisse pas reproduire si facilement. Et, bon, ça doit être compliqué de faire des événements.
Enfin, non, mais le problème là, c'était vraiment le fait. Enfin, on voulait le faire en plein confinement.
Quand il y avait personne.
Voilà, ouais, quand il y avait vraiment personne, t'avais pas du tout le droit de sortir. Il y avait vraiment. C'était même pas couvre-feu ou quoi. C'était confinement. Mais on a pas lâché l'affaire. On a fait le premier concert, donc après le premier confinement, à l'Aiguille du Midi avec The Blaze. C'était une semaine avant la fin du confinement, mais on a réussi avec certaines dérogations à faire ce concert. Incroyable.
Trop beau.
L'Aiguille du Midi, c'est clairement un lieu où on pouvait pas tourner si c'était pas dans ces conditions. En fait, on a presque profité du fait qu'il y ait le Covid pour tourner dans certains lieux qui ne nous auraient pas accueillis autrement.
Ouais, ouais.
Comme les pyramides. Les pyramides, c'était vide. Enfin, ouais, quand c'est on ça, y allait, il n'y avait personne.
C'est... Ouais, j'avais demandé aussi comment se dépassait pour les pyramides. C'est complètement fou.
Et du coup, on a tourné dans des lieux comme ça, vides de touristes. Alors, c'était hyper triste à voir. Par exemple, en Inde aussi. Enfin, j'ai jamais vu l'Inde vide, mais il n'y avait personne dans les rues, à part les vaches. Et du coup, voilà, on a un peu profité du fait, justement, que les lieux étaient disponibles. En quête de promotion
mais
aussi.
Et les faire vivre quand même malgré tout, voilà. C'était trop bien, vous avez le concept parfait quoi.
Voilà, et on a pu voyager, bon c'était franchement pas facile, enfin c'est toujours pas facile, à l'époque c'était encore moins facile puisque forcément il y avait les restrictions d'accès, de temps en temps il fallait faire des quarantaines, de temps en temps, on a même à un moment passé 2 semaines en Inde pour aller aux États-Unis. Enfin bon, en gros tu pouvais pas entrer aux États-Unis si t'étais dans l'espace Schengen. Donc on a fait une émission en Inde, on a passé 2 semaines là-bas et on est allé aux États-Unis pour tourner aux États-Unis. C'était en...
Je sais pas le paradis ça. Allez, vous êtes obligé de rester 2 semaines en Inde. Non, je sais pas si c'était long ou c'est où ça allait. J'ai l'impression que vous êtes une petite famille même si vous bossez. Donc ça doit être hyper agréable de travailler de ces conditions-là et d'être loin.
Ouais. C'est clair que c'est en fait les expériences qu'on vit, enfin font qu'on s'est énormément rapproché et qu'au final c'est comme une colo. Qui part, mais une colo avec un but quand même, un vrai but derrière.
Partez
mais
à combien, pardon ?
On part, en ce moment, on est entre 10 et 15. Voilà. Ça dépend s'il y a du public ou pas de public, mais on est une bonne dizaine, je dirais, à partir. Et du coup, oui, c'est comme une petite colo qui se déplace. Donc oui, on a des liens hyper forts. Ceci dit, c'est quand même... c'est vrai que de l'extérieur, ça peut être vu comme quelque chose de... comme un paradis, etc. Mais c'est parfois quand même dur. Parce que, par exemple, là, à cette époque-là, je me rappelle que pour certaines personnes, et moi aussi, je peux le dire, c'était pas facile parce que, voilà, la situation avec le Covid était hyper incertaine. On était tous un peu... puis après, il y a aussi des personnes dans l'équipe qui ont des vies de famille. Ouais. Partir pendant 2 semaines plus une autre aux États-Unis, ça peut être beaucoup. Puis on part très, très souvent. C'est hyper fatigant. L'Inde, en plus, c'est un pays qui est très intense. Qui demande beaucoup de... Enfin, faut quand même être accroché. Et puis, on a aussi fait un tournage là-bas, donc il y a tous les problèmes qui peuvent arriver, etc. Donc, c'est clair que c'est... Je regrette en rien, c'est incroyable ce qu'on a vécu, mais de temps en temps, c'est quand même un peu dur.
Alors, pour repartir un peu dans les côtés sympas, à quelle heure t'as pris ton premier champagne dans la journée ? J'ai une info, je crois. J'ai vu dans des extraits. À quelle heure t'as trinqué ton premier champagne dans ta journée pour avoir réussi un tournage?
Je pense qu'il était... Je sais plus quelle heure il était, mais il était très tôt. Je pense qu'il était 6 ou 7 heures du matin. Ouais, c'était en Turquie.
Tu peux nous raconter ce tournage?
C'était dingue. Donc, on a fait un tournage. Donc, ça aussi, c'était pendant le Covid, sur une montgolfière. Enfin, dans une montgolfière en plein vol. On a monté toute la nuit. On est arrivé en Turquie et on a commencé le montage. On a passé une nuit blanche. On a tout monté dans la montgolfière. En plus, c'était hyper technique parce que avant de décoller, une montgolfière, elle décolle sur le. Elle est posée sur le côté. Et puis, d'un coup, elle se lève. Donc, du coup, il fallait accrocher tout le matos. Et au dernier moment, on avait 30 minutes pour finaliser, brancher tous les câbles et décoller. Et c'était lever de soleil cette fois-ci, c'était pas coucher de soleil. Donc pareil, pression du temps, etc. Et donc on décolle, on fait le truc. C'est un peu irréel parce que ça se passe hyper vite. Moi, j'ai l'impression que le vol, il se passe en 5 minutes. L'artiste était hyper concentré. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de stress, mais positif. Et donc, on atterrit. Là, c'est un peu le retour sur Terre. Et t'as la compagnie de ballons qui vient avec les bouteilles de champagne. Tu peux pas dire non, hein, tu vois.
Vous l'aviez bien mérité en même temps. Voilà.
Mais...
Mais non, mais enfin, moi, c'est vraiment des trucs qui m'excitent, ces tournages en direct comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a des fois où il y a eu vraiment un truc, un vrai pépin, ou alors quelque chose, ou dans l'autre sens, quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas prévu, qui a rendu le tournage ou le live encore plus incroyable, il y a déjà... Ou alors tout s'est à peu près passé finalement comme prévu
En fait, au final, la plupart du temps, ouais. on y arrive.
Ouais.
Mais souvent, il y a énormément de galères. De dernière minute. Des moments où on a dû vraiment annuler vraiment, c'était à cause de la météo.
Oui, c'est ça, parce que
ouais.
c'est un truc à prendre en compte de ouf aussi.
Ouais, et à la montagne, par exemple, c'est souvent très compliqué. Et à la montagne, on a eu deux annulations totalement, donc c'était une en Suisse et une en France, dans les Pyrénées. Il y avait un, enfin, je me rappelle, les flight cases volaient. C'est-à-dire, un flight case, c'est quand même super lourd. Avec le matos dedans, il volait tellement il y avait de vent. Et là, on a dû annuler, pareil, en Suisse, alors qu'il y avait, non, je crois qu'il y avait même 500 personnes de prévues dans le concert. Et du coup, tu croises les gens dans la station et alors, tu viens d'annuler, qu'on voyageait depuis je sais pas où et tout. On a annulé parce que même les jours d'après, c'était pas possible. Et en plus, nous, on fait exprès de rester 2-3 jour avec l'artiste, toute l'équipe, pour, en cas de mauvaise météo, pour décaler. Et là, on a dû annuler, ouais. Donc ça, c'est des moments, c'est des grosses galères qui sont pas vraiment dues à nous, mais qui nous sont arrivées. Après, des galères, oui, j'en ai eu d'innombrables, mais on arrive toujours à résoudre le truc. Au tout début, maintenant, en plus, on a des systèmes qui nous permettent de se baquer. Par exemple, sur Internet, on a 8 connexions simultanées. Donc s'il y en a une qui lâche, on en a deux, une en a une autre, etc. jusqu'à 8. L'électricité, c'est pareil, on a des onduleurs, donc ça récupère. On a déjà eu des coupures de courant en plein milieu d'un concert. Au Musée de l'Air, par exemple, je me rappelle, au tout début de Cercle. La coupure du live... coupure du son, tout, donc là t'as pas l'air con. Et
faut juste remettre le bouton.
Voilà, faut juste rallumer le bouton.
Allez, tac.
Mais on a eu, non, une fois, la plus grosse galère qu'on ait eue, c'était aussi au tout début de Cercle, coupure internet. Donc c'était une péniche à Paris, mais une péniche, je me rappelle plus du nom.
Problème d'internet, c'est même pas dans un endroit dans la jungle ou ça, c'est à Paris
dans
quoi.
Les rizières,
bravo les gars.
Voilà, Paris, internet qui coupe, il y avait un orage à cette époque-là, donc si ça peut me permettre de et du coup, internet se coupe, le live se coupe au bout de 20 minutes de prestation. Il y avait 500 personnes et donc je vais voir à ce moment-là, il y avait le manager à côté de moi et je lui dis qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, faut le refaire quoi. Mmh. On n'a pas fait tout ça pour rien. Et du coup, il me dit vas-y, on le refait. Et donc du coup, je vais sur scène, j'arrête les artistes. Imagine-toi devant 500 personnes et je dis excusez-moi, on a eu un problème d'internet, on relance le concert. Donc ils vont jouer tout depuis le début. Donc un peu bizarre, mais les gens hyper sympas, tout le monde à fond et tout, et ils ont tout rejoué. Au final, on a eu une belle vidéo complète, mais c'était hyper gênant, c'était un moment un peu dur.
Ça...
Excusez-moi, oui. Arrêtez de festoyer.
Voilà,
on recommence. Faire. Parce qu'en fait, entre le soleil, les caméras, internet.
Il va l'embaucher bientôt.
Marie est plus en train d'hésiter.
Est-ce que y a d'autres lieux comme ça que vous avez eu accès, qui sont pas forcément accès normalement au public?
Tout à l'heure, tu me demandais la question et j'avais pas l'impression d'avoir répondu correctement avec.
Tu vois, je la repose parce que je suis dans ta tête.
Il y a un lieu qui s'appelle Copa del Sol. C'est au Mexique, à Carreyes. C'est incroyable. Alors c'est mi-accessible au public, j'ai pas bien compris comment ça se passait. En fait, c'est une résidence privée, mais je crois qu'ils autorisent de temps en temps l'accès au public. C'est un architecte qui a fait ça, juste en face de l'océan Pacifique. Et c'est assez incroyable, c'est gigantesque, c'est un bol.
Oui, c'est un gros bol.
On voit la photo sur Google. Ah oui, c'est une belle œuvre.
Voilà, c'est un bol qui est face à l'océan et c'est hyper beau. En général, ils font des cours de yoga ou de méditation. Okay. Il y a jamais de prestations musicales, etc. Mais ils nous ont autorisé à tourner sans public un concert et c'est un endroit incroyable parce qu'en plus, nous pendant le tournage, on a vu des baleines. Tortues, enfin c'est incroyable, c'est franchement hyper beau. Donc ça, je le conseille vivement et c'est pas très connu.
C'est vraiment horrible parce que je regarde la photo, donc c'était un gros bol et vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est faut énormément de Kellogg's. Hein.
Bah oui, bah je pense et beaucoup de lait aussi. Et beaucoup de lait.
Tonnes.
Ouais. Il y a des trous, tu peux pas foutre le lait, regarde. Il y a des petits trous.
Ah c'est, on vous montrera sur Instagram. Ouais.
Ça c'est au Mexique, le White Desert aussi en Égypte, c'est un désert qui est incroyable, qui est blanc. Enfin, qui a des parties blanches, comme son nom l'indique, et qui a des sortes de formations rocheuses blanche. Et ça, c'est un peu lunaire. Enfin, t'as l'impression d'être sur la Lune, même si jamais t'es sur la Lune. Mais c'est cet imaginaire, en tout cas. Et je crois que c'est pas très connu, finalement. Tout le monde connaît le Sahara, etc. Mais le White Desert... et puis, c'est accessible à tous. Alors, il faut quand même avoir un guide.
Ouais.
C'est vraiment magnifique. Et puis après, des endroits un peu plus connus, mais le Salar d'Uyuni...
Vous l'avez fait période sec ou reflet ?
Reflet. Ouais.
Et ceux qui ne savent pas, c'est un désert de sel. Et du coup, il y a la moitié de l'année, il y a une petite couche d'eau qui fait que il y a le reflet de ta personne, enfin, il y a le reflet de tout. Et l'autre partie de l'année, c'est du coup du sel blanc et c'est du blanc à perte de vue. Mmh. Voilà.
Le live, t'es avec quel artiste ?
C'était avec FKJ.
Je l'ai regardé, je crois, 500 fois pendant le confinement. Moi, je me mettais les lives de cercle pendant le confinement, ça me faisait trop de bien de voir des beaux paysages, de la belle musique, une réale de fou.
D'accord avec toi, FKJ, c'est vraiment un génie. En fait, c'est un homme orchestre.
Ouais.
Il a combien d'instruments autour de lui, même en 360 degrés, et il les prend tous, il joue comme si c'était hyper facile. Mais il est incroyable, ce mec-là. Voilà, Salar d'Uyuni, Cappadocia aussi, on en a parlé. En Turquie, il y a ce qu'ils appellent les chimneys, là, qui ont c'est des formations qui ont des millions d'années, 3 millions d'années ou quelque chose comme ça, et c'est complètement incroyable aussi. T'as l'impression d'être dans un autre monde. Hyper romantique aussi comme endroit, je trouve. Enfin, il y en a beaucoup. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, je viens de les citer.
Est-ce que tu voyages hors travail ?
Oui.
Depuis que tu travailles en voyageant ?
Carrément. Et d'ailleurs, j'adore voyager avec Cercle, mais j'apprécie d'autant plus voyager vraiment. Enfin, prendre le temps de voyager parce que, comme je disais, on n'a pas le temps en 3 jours de voir quoi que ce soit.
Ouais.
Souvent, quand on part dans une destination, j'ai des amis qui me disent « Ah, va là, va voir tel truc, non, bah, j'ai pas le temps. »
Ouais.
Donc, je fais juste l'aller-retour. Et j'adore voyager en dehors de ça. Là, par exemple, je reviens de 2 semaines au Costa Rica. Et du coup, je suis même parti sans téléphone et sans ordinateur, sans Internet, justement pour me couper totalement de la frénésie, couper de cette frénésie de voyage que j'ai avec Cercle. Et c'était...
Attends, vraiment, premier degré, t'as laissé ton portable ?
J'ai laissé mon portable.
Ou tu l'as juste laissé à l'hôtel ?
Non, j'ai laissé vraiment mon portable. Alors, j'ai acheté un vieux téléphone, les T9, 3310.
Ouais, ouais. Okay.
Il n'y avait même pas le T9, donc quand je voulais envoyer un message de bonne année à mes parents, j'ai dû galérer.
1, 2, 3.
Exactement, okay. Ça m'a rappelé... Et du coup, j'avais ça, donc on pouvait me joindre et je pouvais appeler, mais c'est tout. SMS, et donc s'il y avait une urgence, on pouvait m'appeler vis-à-vis de Cercle. Et moi, si j'avais une urgence, je pouvais aussi appeler, mais zéro Internet. Et ça a été une expérience incroyable.
Je peux en être témoin, parce que quand je lui ai proposé par Instagram de participer à Tourista, et il m'a répondu il y a quelques jours, donc il m'a laissé en pas de message pendant très longtemps, parce que ton téléphone était coupé, enfin,
ouais,
il n'y avait pas Internet.
Totalement coupé. Ouais.
Ouais, donc, je comprends en fait ce besoin d'être dans un autre contexte.
Digital détox, certains diraient.
Bah ouais,
exactement.
Non, mais t'imagines le stress, il appuie sur le bouton du live, est-ce que tous les branchements fonctionnent, est-ce que les caméras, les drones, ils vont pas, c'est j'adore, hein, mais ça a un stress de ouf.
Donc, c'est ce qu'on aime quand même.
Il y a une excitation, une adrénaline de dingue. J'avais fait 10 jours sans téléphone, et alors le moment où tu rallumes le téléphone, c'est une angoisse ou pas?
L'angoisse totale. Ouais. J'ai pris un screenshot, je sais plus combien, je crois j'avais 400 mails, 300 messages sur WhatsApp et tout, c'est l'angoisse. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait merci, putain, je l'ai rééteint, et le lendemain quand je suis arrivé au bureau, j'ai checké les messages, mais l'angoisse totale, ouais.
Je faisais partie de tes angoisses, je suis désolé.
Non, ton message en vrai m'a vraiment fait plaisir, et c'est un des messages que j'ai consulté en plus, Et du coup, t'es parti sans téléphone pendant 10 jours, ou ça?
J'ai fait une retraite au Népal où j'ai fait plusieurs trucs, donc j'ai déjà raconté, c'est l'épisode avec Mahua où je raconte une retraite que j'ai faite. J'étais sur une petite colline au Népal. On faisait plusieurs trucs un peu comment on appelle ça, de j'ai fait des cérémonies d'ayahuasca, et après j'ai fait un truc où je restais tout seul dans la colline sans manger. Enfin, c'était un truc de...
C'est un délire,
mais pour faire du bien au cerveau, tu vois. Et donc, et couper le téléphone, et effectivement, moi j'ai eu un stress, tu sais, au moment où je rallumais, je me disais, en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant... je m'étais vraiment habitué à vivre avec les gens qui étaient autour de moi, donc on était un petit groupe, c'était vraiment trop bien, on vivait ensemble depuis 10 jours, bon, sauf les moments où j'étais tout seul dans la colline. Et en fait, moi c'était rigolo, mais c'était le moment où il y avait la cathédrale qui était en feu.
Oui, Notre-Dame.
Donc Notre-Dame, donc en fait, je me suis tapé tout, tous les messages de conversations de groupe qui s'envoyaient les vidéos du truc en feu. Et en fait, j'ai vécu le truc en live, mais après coup. Enfin, bref, ouais. c'était un peu le moment, ouais. Moment fou que j'ai loupé du temps réel, quoi. Mais c'est vraiment le seul truc.
Et ça m'a, et ta vie n'avait pas vraiment changé.
En fait, ça m'a pas du tout touché, vraiment. Et donc, je sais pas si maintenant les gens, quand ils voient Notre-Dame, ils ont ce petit pincement au cœur parce qu'ils ont vécu le moment où elle a pris feu.
Ouais, peut-être. Ouais, mais toi, du coup, t'étais pas là, quoi.
Mais que dalle, quoi.
T'étais sur ta colline.
J'étais bien. Namasté, ma sœur.
Moi, j'avoue, j'ai jamais coupé complètement le téléphone.
Jamais ?
Non. En voyage, c'est. Mais par contre, je fais exprès de pas mettre de puce internet. Quand on était ensemble en Thaïlande, c'était genre la première fois depuis 2 mois que je mettais internet dans mon tel. Comme ça, je swap internet que à l'hostel et tout pour dire à ma mère je suis vivante. Mmh. Mais après, le reste du temps, c'était juste pour filmer des trucs parce que je filme mes voyages et tout. Mmh. Mais du coup, j'ai jamais vraiment breaké, quoi. Breaker avec le tel, peut-être il faudrait que je fasse ça. Hein.
Je te le conseille vivement.
C'est vrai. Mm. Mais j'ai peur aussi de ce truc-là, de 2000 messages. Oh.
Ouais, ça c'est un peu le. Mais bon.
Ouais. En même temps, je suis addict.
Bref, en même temps, c'est un autre podcast. T'es né avec un téléphone dans la main, c'est de cette génération,
c'est
Marie.
Ah oui, écoute. On n'a pas tant d'écart que ça, mais.
Je vous le jure. Je sais plus ce que je voulais dire, je voulais enchaîner sur un truc.
D'ailleurs, il dit ça, mais pour les touristes ou ces touristas, il faut savoir que de voyager avec Maxime, c'est vraiment quelqu'un qui prend tous ses plats en photo.
Ah oui, c'est vrai.
Tout ce qui boit et tout ce qui mange.
J'aime bien prendre les photos. Mais j'aime bien prendre les cartes SIM. Pour moi, c'est même plus un truc de sécurité d'avoir une carte SIM.
Non, mais t'as raison. Hein.
C'est genre, bam, j'ai internet, bim bam boum. Ouais.
Alors que moi, je téléchargeais des cartes. Pour me retrouver dans la ville après, des cartes gratuites, parce que t'as pas Maps ou des trucs comme ça.
Est-ce que tu aurais réfléchi à une ou deux anecdotes pour participer au concours d'anecdotes où on t'écoute parler, tu nous racontes quelque chose qui t'est arrivé en voyage d'incroyable, d'extraordinaire, tes petits papiers, je suis sûr que tu nous as prévu ça, Derek. Ah, je t'écoute.
C'est là où j'ai vraiment préparé ça, parce que je me suis dit que j'allais pas me rappeler de la meilleure. Enfin, de la plus impactante, mais j'en ai deux. Enfin, j'en ai plein. Je sais pas laquelle raconter, en fait, là.
Tu peux raconter les
deux. Les deux.
C'était à Preikestolen. C'est une falaise en Norvège où on a fait une émission, donc sans public, avec Ayn Music et Jonas Salbar. Le lendemain du tournage, donc il s'est très bien passé. Alors, quoique, on a quand même eu une petite coupure d'électricité à ce moment-là, mais l'onduleur a repris le dessus.
Il y avait l'onduleur.
Et du coup, le lendemain, journée repos, voilà. Et Michael et Jérém, Michael c'est un de nos cadreurs et Jérém c'est un de nos pilotes de drone, vont faire un petit tour en kayak dans de l'eau.
Donc ça c'était après le travail.
Ouais, après le travail.
Après le travail.
Ils vont faire un petit tour en kayak, ils vont voir les alentours, donc à savoir que l'eau est très froide hein, en Norvège. Et ils partent avec tout leur équipement, les caméras, les drones, tout ça. Et à un moment, il y en a un des deux, on ne dira pas lequel, fait un mauvais coup de pagaie et les deux tombent. En gros, moi je me rappelle, c'est Caméléon, je crois, qui est une personne de l'équipe qui les voit la première fois. Il dit c'est bizarre, je crois qu'ils sont tombés. Ils étaient hyper loin. On était dans l'hôtel et on les voyait de loin, ils étaient hyper loin. Et on commence à du coup s'exploser de rire au début.
première réaction normale.
Première réaction de ah, ils sont tombés et tout. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que ils n'arrivent pas à remonter en fait et que l'eau est extrêmement froide. Et donc là, très rapidement, on commence à paniquer. Mathieu commence à prendre un kayak et à aller les chercher. Il y en a un des deux.
Ah oui, parce qu'il n'y avait que des kayaks à côté. Il n'y avait pas genre le jet ski qui permettait d'aller sauver les kayaks.
Non. Et ils étaient loin, hein. Franchement. Ils étaient... Et à ce moment, du coup, on appelle tout de suite les secours.
Ouais.
Enfin, tout de suite, on appelle le 112 ou un truc comme ça.
La carte SIM, importante, Marie. La carte SIM,
très importante. Oui. incroyable. Alors, ils sont arrivés hyper vite en hélico.
Oh, putain.
Ah, waouh.
Ouais, alors... Donc en gros, Mathieu arrive en même temps que l'hélico. Donc Mathieu arrive avec son kayak. Alors Jérém, il est parti à la nage. Il est rentré à la nage. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à rentrer à la nage. Il était exténué, voilà. Et Michael, lui, a décidé de rester sur place à attendre les secours. Et lui, il raconte ça.
Pause. Il y en a un des deux qui a lâché, qui a fait hey, salut. Moi, je suis hyper bon, donc relais, va te faire foutre.
Non. L'idée, c'était d'aller chercher
de l'aide. Okay.
De l'aide. Parce que sur le moment, pendant un certain long moment, je pense que c'est...
On peut pas savoir comment on réagit dans ces cas-là,
Marie. C'est vrai. Moi, j'aurais eu trop peur. Mais non, t'en vas pas.
Non, mais pendant un long moment... je pense que pour eux, ça a été très long. Peut-être 2 ou 3 minutes. Mais nous, on s'est pas rendu compte au début. Donc à un moment, ils se sont dit...
Il faut faire quelque chose.
Ouais. Jérém, il est parti chercher de l'aide. Et Michael s'est dit... il se sentait bien. Franchement, sur le moment, il se sentait bien. Sur ce coup, il était posé comme ça.
Il était bien, en jack, comme dans Titanic.
Franchement, ouais. Et il raconte qu'il se sentait vraiment Pas de problème. C'est quand il est arrivé sur Terre qu'il était en... comment on appelle ça,
hypothermie.
Hypothermie totale. Il tremblotait complètement. Il était vraiment, les deux étaient vraiment hyper. Enfin voilà, en hypothermie totale. Mathieu est arrivé en même temps que l'hélico, donc il a pu charger Michael sur le kayak. L'hélico après s'est posé à côté pour voir si tout allait bien. Il leur a donné une couverture de survie et tout. On est même passé dans la presse locale le lendemain. Donc,
ah ouais, 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 ouais.
Tu vois, c'était un peu. Bon, voilà, on était un peu. Comment dire On était un peu gênés, tu vois, de la situation.
Ça fait du buzz,
exactement. Mais ça franchement, ça a été une des expériences les plus marquantes parce qu'on avait vraiment peur pour eux.
Le matériel, évidemment.
Alors le matériel, incroyable mais vrai. Bon, les téléphones morts, mais par contre le drone, il a survécu et la caméra, elle a survécu. Elle est restée une semaine éteinte et une semaine après, poup, ça s'est allumé. Et alors que les sacs,
vous l'avez mis dans du riz.
Ils l'ont mis dans du riz, exactement.
Ça marche même pour les caméras.
Même pour les
mais incroyable, mais le matériel a survécu. Et du coup, je crois qu'il y a une espèce de malédiction dans les pays nordiques.
Deuxième anecdote.
Oh là là, sans transition. cette fois-ci avec Sofiane Pamard, donc c'était en Finlande. On a tourné une émission donc en septembre dernier sous les aurores boréales. Donc c'était une émission incroyable. Et le lendemain, pareil.
On décompresse quoi.
Décompresse. on décide de tourner quelques shots sympas avec donc on met Sofiane, non faut pas dire que ça, mais je veux dire on dit à Sofiane d'aller dans une barque et on lui met un piano, tu vois, sur la barque, et il part un peu, je suis mort de rire, mais c'est pas drôle du tout, et il part, tu vois, un peu loin, mais il part hyper loin et il arrivait pas à revenir.
Oh non.
Mais il part hyper loin et il arrive pas à revenir, tu vois, et là on se dit putain, la malédiction des pays nordiques, tu vois,
et des barques, faut arrêter les barques, les
gars, faut arrêter les barques,
les kayaks, tout ce qui est
moteur, faut prendre un petit moteur,
et oui voilà, et du coup bon là sauvetage avec un bateau à moteur d'un gars du coin qui est allé le sauver. Bon, il est pas tombé dans l'eau, hein. Mais voilà, il nous a arrivé ça et du coup on est allé le sauver après.
Il avait un moyen de communiquer avec vous, ou alors il vous sifflait
On avait un toki.
Ah ok. Ouais.
Ben, cette fois on était un peu plus préparé quand même.
Au cas où tu tombes.
Au cas où tu tombes, vu qu'il y a un
de... Et pendant ces moments-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui filme ou quoi? Parce que je sais que parfois il y a des coulisses de... Non, mais c'est vrai, il y a des behind the scenes et tout. Est-ce que ça... Bah non, parce que c'est plus le travail.
Non, enfin, on a tout est filmé. Tout est filmé. La première et la deuxième anecdote sont filmées.
Oh, et on n'est pas diffusé.
On n'est pas diffusé. Ouais, bah, sur le moment, non. Je pense pas qu'on va. Non, par contre, on a des images incroyables de Sofiane. On a des photos parce qu'il est vraiment au milieu de nulle part.
Oui, bien sûr.
On a des images vraiment incroyables. Et c'était
tout
pour
Insta. Hein.
On les a pas encore publiées, mais on a des images incroyables. Du coup, il a. Enfin, on a tous eu une bonne frayeur, mais au moins, on a des bonnes images.
Des bonnes photos.
Et ce soir-là,
nos risques, nos gains sur Instagram.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'à côté de moi qui fait le signe de Jules au Machu Picchu, bah, il y a une dite. C'est pas tout à fait la même photo
risques,
de vacances.
Et du coup, le soir même, donc on rentre, mon petit frayeur, tout va bien. Et le soir même, tous les soirs, en fait, on a tourné l'émission le lundi. Et tous les soirs, à partir de là, on a eu des aurores. Et le dernier soir, on a eu vraiment les aurores les plus fortes. Donc, on avait un peu les boules de ne pas avoir tourné ce soir-là.
Bon, c'était déjà beau quand même. Hein. J'ai vu les images.
Merci. Et du coup, on va voir les aurores comme tous les soirs, ce soir même là, le mardi. Et là, on voit. Et je pourrais t'envoyer juste le son de nos réactions. Je sais pas si tu pourras le mettre ou pas, mais c'est assez incroyable. On voit une espèce de comète qui explose comme ça dans le ciel avant qu'il y ait les aurores. Et on était donc c'est la nuit, hein, et tu vois une espèce de. Je sais pas si vous avez vu Don't Look Up.
Bien sûr.
Bon, bah, exactement ça. On voit comme un truc comme ça qui explose, incroyable. Et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc là. On commence tous à crier. Les gars locaux, les Finlandais, qui hallucinent aussi. Donc on se dit, ok, c'est un truc complètement pas normal.
Pas normal, ouais. Ouais. Pas habituel.
Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tu vois que ça explose de plus en plus. Ça a duré 5 minutes. Et à un moment, ça vient vers nous. Je te jure.
Mais non.
Et là, moi, j'ai paniqué vraiment.
Tu m'étonnes.
Et je suis le seul. Et t'entends.
Il a pris sa barque tout seul.
Faut qu'on se casse comme si ça allait changer un truc. Si tu te prends une comète dans la gueule, je pense que ça change pas grand-chose. Et je te jure, j'ai commencé à courir, j'ai voulu commencer à courir, j'ai vraiment eu peur.
What the fuck's that? What the fuck's that? What the fuck's that?
Écarte-toi, tu me baisses mon plan, frère, Viens, tous les contenus, tous les drones.
Filmez. C'est un avion à marche arrière, c'est tout.
On voit le feu, frère.
Mais c'est un énorme météorite.
Regarde, Derek, comment je le capte, frère.
C'est vrai, c'est un avion.
Alex!
J'ai lu qu'il y avait un météorite qui allait arriver.
Alex! What the fuck's that?
Mais tu rigoles pas, Derek.
Ouais, ça se désintègre. Ça désintègre, frère. Ça s'est désintégré.
Oh, oh, oh l'explosion. Oh, oh, oh,
ça arrive sur nous. Oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh,
mais il vient sur nous.
Il vient vers nous.
Wow!
En fait, je sais pas trop ce qui se passait. Je pense que ça a explosé dans l'atmosphère et ça se divisait de plus en plus. Et on a appris le lendemain que c'était pas une comète, mais que c'était une fusée envoyée par les Russes.
Oh putain!
Et qu'on avait vu pile. Okay. On était dans le bon endroit pour la voir, qui se redésintégrait en rentrant dans l'atmosphère. Mais on a cru sur le moment que c'était une comète et on a totalement halluciné.
Ah là là, c'est ouf cette anecdote. On n'a jamais eu des anecdotes comme ça.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc tu pourrais nous filer un son de
je
parce qu'il y a
même la. Ouais, je peux t'envoyer le.
Un contenu exclusif sur Instagram par exemple.
Ah peut-être. Là. Carrément.
Ah trop bien.
Et tu nous entends tous crier. Il y a le mec, le chasseur d'aurore qui nous aidait, qui crie Alex. L'autre il était pas là et tout. Il appelait son collègue. Tout le monde était en train de crier. C'était la cohue totale.
Il y a un film comme ça où genre c'est une famille qui est dans un restaurant en hauteur dans la montagne. Et en fait, il y a une avalanche qui arrive. Et en gros, l'avalanche, elle s'arrête pas. Tout le monde regarde, c'est une avalanche déclenchée. Donc les gens se disent, oh là là, ça va s'arrêter et tout. C'est une petite avalanche et tout. Et en fait, elle grossit, elle arrive de plus en plus proche du restaurant. Et en fait, t'as un moment, les gens sont en panique dans le restaurant. Et en fait, t'as la mère de famille qui protège ses enfants comme ça. Et en fait, le père de famille, il se barre tout seul.
Non.
Et ça, c'est le début du film. Et en fait, l'avalanche, elle se tasse. Et en fait, il se passe rien. Et donc tout le monde est dans le restaurant en mode papa. Et là, le père de famille revient voir la famille. Et là, c'est l'intro du film. Enfin, c'est exceptionnel. Du coup, ça, c'est ce qu'on dit. On ne sait pas comment on réagit. Et tu vois que là, bon, bah, lui, il était un petit peu solo, quoi. T'as d'autres petits tips à nous raconter en vitesse, des lieux incroyables ou un truc qui t'a marqué, ou sinon on va direct à la bucket list si t'as fait déjà le tour.
En vrai, il y en a beaucoup des lieux incroyables. Donc,
bah ouais. Et puis vous avez qu'à voir les vidéos.
Voilà,
et puis
allez.
En vrai, allez sur la chaîne. En vrai, qu'est-ce qu'il faut faire, Derek?
Allez sur la chaîne YouTube de Cercle.
Voilà, vous verrez tout. Non, mais en vrai, c'est.
Et pas le Cercle.
C'est bien, Marie.
Et pas le Cercle.
J'ai bien retenu.
Elle va poser son CV. Non, en vrai, c'est moi, je pose mon CV. Je veux trop les éclairer.
Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je peux trop les éclairer. Non, mais moi,
journaliste,
je veux juste être avec eux.
Gens, en fait, si
quand je les vois faire leur truc, j'ai trop envie d'être avec eux. Ils ont l'air trop kiffés et tout. Enfin, kiffés et stressés, mais d'être dans des endroits incroyables. Donc, ouais, franchement, aller voir les lives, c'est fou. J'ai l'impression que t'as déjà tout fait dans ta vie, Derek. Mais ce n'est pas vrai. Tu as sûrement une bucket list.
Franchement, je connais pas du tout la Chine. Et j'ai vraiment très envie de visiter ce pays. Je pense qu'au niveau nature, mais tu vois, la Chine dans les terres.
Ouais.
J'ai vraiment visité, j'ai vu repérer en ligne, entre guillemets, des lieux qui ont l'air incroyables. Donc la Chine, c'est vraiment dans ma bucket list. Alors pour Cercle, j'adorerais faire une émission au Taj Mahal.
Ouais.
Franchement, c'est un lieu vraiment magique.
Tu penses que c'est possible?
Je pense que c'est possible. Ouais. Mais c'est pas facile du tout, parce que c'est quand même un lieu sacré, c'est pas facile, mais on y travaille.
Ensuite, je crois qu'il réfléchit à ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire, dans ces trucs un peu secrets et tout. Je suis sûr, il part toutes les deux semaines, je sais même pas, est-ce que t'as le droit de dire où ton prochain tournage, t'as le droit de dire où
ouais,
c'est?
Ouais, j'ai le droit de le dire.
Ah ouais,
oui.
Alors tu pars où?
Parce que c'est annoncé après-demain, du coup j'ai le droit.
On diffuse dimanche, donc
voilà.
Donc ça sera déjà...
C'est au Brésil, à Rio, au musée ça s'appelle le Museo do Amanha, donc musée de demain. Ça a une architecture assez futuriste, assez incroyable. Et c'est à Rio et on fait l'émission le 24 janvier. Franchement, il y a beaucoup de lieux. Je connais très mal le continent africain aussi. Il y a énormément de lieux en Afrique que j'aimerais visiter. J'ai des amis qui sont partis faire le tour de l'Afrique. Ça fait déjà 2 ans qu'ils voyagent.
Trop bien.
Et quand
faudra,
je vois leur...
Faudra qu'ils viennent dans Tourista.
Carrément.
Bah ouais.
Tu connais ça s'appelle les Mariole Trotteurs. Les vidéos qu'ils filment sont vraiment magnifiques et ça me donne beaucoup envie de voyager en Afrique. Machu Picchu, justement, je suis
jamais... Ah, j'ai fait avant Watt.
Ouais. Franchement.
Faudra que tu trouves autre chose que le signe de Joule, du coup, pour Instagram.
Instagram, ouais. C'est déjà été fait.
Il y a énormément de lieux. Et après, j'aime bien dire dans l'espace, mais bon, je sais que ça arrivera jamais. Mais...
Vous avez fait une blague pour Pâques. Vous avez fait genre, vous faisiez un live avec Thomas Pesquet.
Avec Daft Punk.
Et Daft Punk dans
ISS. Ouais.
Je te jure, j'ai lu, ils ont fait ça sur Facebook, l'event et tout.
C'était le 1er avril.
Et au début, j'ai fait, ah quoi, ils font un live avec Thomas Pesquet? Et après, je vais à Daft Punk. Ah putain, non, c'est une blague. C'était bien joué.
Ouais, ouais, mais il y a énormément de monde qui a cru, alors que c'est franchement improbable, mais...
Ouais, mais tu sais, toi, Pesky, il est partout, tu sais, donc ouais, ouais. Je me suis dit, allez, quoi, pourquoi pas, et puis bon...
Puis il mixe un peu.
Quoi ?
Il mixe un peu, toi,
Thomas, ouais.
J'en sais rien.
Non, mais il adore la musique électronique, d'ailleurs, il suit Cercle, c'est un grand honneur, il suit Cercle sur Instagram, alors on s'est jamais parlé ou quoi que ce soit, mais... peut-être si une collab un jour.
Si tu lui parles, tu lui diras de venir dans Tourista aussi, tiens, si, ça serait sympa. Bon, bah voilà, on a pas mal de projets, et puis ouais, tu m'invites alors au Vietnam quand vous faites les mains,
Le carrément.
Pont avec les mains.
Oh, mais là, je t'invite quand tu veux, André.
Eh bah Marie aussi, on viendra
faire... Ah mais je vous invite quand vous voulez.
Eh bien, j'ai pas envie de terminer cette émission, et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et il y en a un qui part au Brésil dans pas longtemps. Marie, tu pars?
Je pars dans le 13e, dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, c'est un petit voyage aussi. Eh bien, les amis, et les touristos et touristas, merci beaucoup. Bonne année à vous, bonne année à tous et à toutes. Merci de suivre Tourista. Merci de nous mettre des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast avec des commentaires. Il y en a de plus en plus. Ça nous fait grossir. C'est super. Ça nous touche. On est trop contents. On va essayer de refaire des épisodes. En public,
oui.
Le plus vite possible. J'ai peut-être un plan encore pour Paris. Après, j'essaierai de trouver des solutions si on peut en faire ailleurs. Voilà, il faut qu'on ait un peu de budget, tout ça. On va se débrouiller, mais voilà, on a la vie devant nous. Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais oui, merci. Bonne année, tout le monde. Vraiment trop contente de reprendre cette année 2022. Bientôt un an de Tourista.
C'est vrai, bientôt un an.
Dit comme ça, on peut couper cette phrase et juste me penser que j'ai des problèmes digestifs. Mais non, je parle dans des podcasts.
Derek, c'était trop sympa d'avoir pris du temps pour nous dans tout ton jet lag de life. C'était ça.
Non, mais merci beaucoup pour l'invitation, c'était super sympa.
Et à très bientôt. Et il y aura bientôt des petits lives en concert avec des gens en France bientôt.
Oui, prochain gros event, c'est le festival le 14 et 15 mai au Bourget, donc au Musée de l'Air et de l'Espace. Voilà. Entre les fusées, les avions.
Trop bien.
On bloque les dates.
Alors là, vous êtes plus que les bienvenus.
Trop content.
Merci.
Eh ben voilà, on a gratté des places, Marie. À bientôt.
Au revoir.
Petit avion qui part. En parlant de Bourget, ça va être.